Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous comme tous les jours. RFI vous donne la parole, nous sommes vendredi et vous connaissez le principe du vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. La libre antenne, ce sera dans 30 minutes, vous pourrez évidemment nous interpeller sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Je ne vous cache pas que le sujet qui suscite le plus de réactions au standard et sur nos réseaux sociaux, c'est évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. On a des réactions du Sénégal, du Mali, de Madagascar, de la République démocratique, du Congo, de Guinée. On parlera également, car vous êtes plusieurs à souhaiter commenter, la crise post-électorale en Mauritanie avec ces quatre candidats de l'opposition qui contestent la victoire du candidat du pouvoir. On parlera du président gambien. On parlera également de la flambée des prix du manioc en République centrafricaine. Si on a le temps, on donnera la parole à un auditeur sur le Togo avec ses premières élections locales depuis 32 ans. Voilà un aperçu des réactions qui nous arrivent ici à Paris, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien nous vous répondons. On va mettre les mots dans l'ordre, nous vous répondons. Romain Lemaresquy qui est à mes côtés déjà, Romain Lemaresquy du service international de RFI, se moquait de moi. Bonjour Romain.
Pas du tout. Bonjour Juan, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu. On vous a demandé de nous rejoindre car Rousseau, qui nous a contacté de la République démocratique du Congo, a des questions à vous poser sur le processus de paix en Colombie. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue, nous vous écoutons.
En Colombie, 724 anciens combattants des FARC auraient dû participer à un programme de réinsertion prévu pour l'accord d'été, mais ils sont introuvables. Pourquoi ces anciens combattants se seraient-ils en fuite ?
Alors,
ce n'est pas la première fois.
On va déjà répondre effectivement à cette première question, Romain Lemaresquy. Je vais reprendre les propos de nos confrères du quotidien colombien El Tiempo, oui. Effectivement, quotidien qui a révélé cette information. 724 ex-combattants qui se sont littéralement évaporé.
Exactement, oui. Alors, selon la presse colombienne, et si l'on s'en tient à ce qui s'est déjà produit auparavant, il pourrait très bien avoir tout simplement rejoint d'anciens membres des FARC qui ont retrouvé la clandestinité. Selon ce quotidien El Tiempo, un groupe de dissidents de quelques 1600 anciens membres des FARC s'est recomposé depuis la signature de l'accord de paix en 2016. Des appels réguliers à la dissidence sont envoyés. Ces plus de 700 anciens guerrieros auraient très bien pu répondre à l'un de ces appels. D'ailleurs, ces appels se sont intensifiés ces derniers temps, depuis que les autorités ont perdu la trace de trois anciens hauts dirigeants des FARC, parmi lesquels Ivan Marquez, ce commandant très respecté par ses troupes, avait choisi dans un premier temps de tenter un retour à la vie civile, un peu comme ses guerriers russes. Il a même été élu au Congrès, mais en mai dernier, il a finalement publié une lettre sur son compte Twitter expliquant pourquoi l'accord de paix était une erreur, et depuis, les autorités colombiennes ne savent pas où il se trouve, tout comme ses 724 guerriers russes.
Ouais, et ce n'est pas la seule hypothèse, Romain.
Non, l'autre éventualité, c'est que ces anciens combattants qui sont tous formés au maniement d'armes et explosifs, précise El Tiempo, et puis offrir leurs services à d'autres organisations illégales, des groupes criminels, des cartels, et il ne faut pas oublier bien entendu l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, la dernière guérilla active qui, elle, n'a pas encore scellé d'accord avec les autorités colombiennes. Enfin, on ne peut pas non plus totalement écarter un retour de ces 724 anciens membres des FARC, et la liste des personnes disparues comptait au départ 991 noms. Si aujourd'hui les autorités en recherchent plus que 724, c'est parce que 267 autres ex-guerrieros ont commencé à revenir de manière volontaire dans différents endroits.
Ah oui.
Donc oui, un retour de ces combattants disparus n'est pas impossible encore, et ce même si les autorités se disent très très inquiètes.
Rousseau, je vous ai coupé la parole, vous aviez une seconde question.
Ah oui, Juan, ce n'est pas la première fois que les anciens FARC disparaissent. Est-ce l'avenir de l'accord de paix est-il remis en question par ces disparitions ?
Ah, quel avenir pour le processus de paix?
Alors, ce ne sont pas ces disparitions qui remettent en cause l'accord de paix. Cet accord de paix est mis à mal par plusieurs facteurs et une des conséquences de la lenteur de sa mise en œuvre, ce sont ces défections et ces retours à la dissidence de plusieurs centaines de guerriers roses depuis la signature des accords de paix en 2016. Et plus le temps passe, plus la mise en place de cet accord semble être remise en question, que ce soit par d'anciens membres des FARC ou par le gouvernement. Par contre, si l'on s'en tient purement aux chiffres, la situation n'est pas encore dramatique. Aujourd'hui, sur la totalité des anciens membres des FARC qui ont décidé de suivre le processus de paix, 91,7% seraient encore présents dans ce processus, c'est-à-dire 9 combattants sur 10 n'ont pas fui, selon El Tiempo, une proportion bien supérieure à celle que l'on a pu constater dans d'autres pays qui avaient mis en place ce type d'accord. Donc si l'on s'en tient à ces données, le processus de paix pourrait être en bonne voie si le gouvernement montrait une véritable volonté politique de l'appliquer durablement, d'une part, et d'autre part, si les groupes criminels cessaient de proliférer.
Ouais. Mais ce chiffre de 724 anciens combattants disparus dans la nature a de quoi inquiéter.
Oui, et comme l'ont expliqué les différentes parties prenantes à cet accord de paix, le défi désormais est justement d'empêcher que cette dissidence augmente. Et pour que cela soit possible, il faut accélérer les différents chantiers, c'est-à-dire la justice transitionnelle, la réappropriation des zones aux mains des FARC par l'État, les cultures de substitution, les remises de parcelles cultivables et permettre le retour des populations déplacées tout en offrant une protection aux personnes menacées.
Rousseau, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, merci beaucoup.
Bah, remercie surtout Romain Lemaresquier du service international de RFI. Merci Romain.
Merci à vous.
Rousseau, bonne journée à Matadi en République démocratique du Congo. Des questions maintenant sur l'Union européenne. Bien assis. Bonjour.
Oui. Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos questions? Soyez le bienvenu.
Oui, la division des pays membres peine à trouver des successeurs au poste clé de l'Union européenne. Les favoris ont été écartés faute de majorité. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque et pourquoi est-ce si compliqué de désigner les responsables de l'Union européenne.
Ouais. C'est vrai qu'après les élections européennes du mois dernier, il y a 4 postes importants à pourvoir à la tête de l'Union européenne. Celui de la présidence de la Commission, la présidence du Conseil, la présidence du Parlement et le poste de chef de la diplomatie européenne. Et vous avez raison de vous interroger et de comprendre pourquoi les 27, les 28 ne parviennent pas à s'entendre sur une personnalité. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour bien assis.
Correspondant de RFI à Bruxelles. Visiblement, si j'ai bien compris, Pierre Benazet, c'est surtout la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission qui pose problème.
Oui, ici, on est beaucoup dans la métaphore en ce moment, et la première métaphore qui vient, c'est celle du boutonnage. Vous prenez un gilet ou une chemise, il faut que le premier bouton soit dans la bonne boutonnière pour que tout puisse descendre. Donc, on commence par le président de la Commission européenne pour pouvoir nommer en cascade ensuite la remplaçante de Federica Mogherini à la tête de la diplomatie européenne, pour pouvoir nommer surtout le président du Conseil européen pour remplacer Donald Tusk. Et puis viendra aussi, dans ce maquignonnage, autre métaphore, ou billard à trois bandes, viendra aussi la nomination du président du Parlement européen. Et là, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas la prérogative, évidemment, de le faire eux-mêmes, mais ça compte. Et puis, on parle aussi d'un poste qui n'est pas censé être dans la négociation, mais qui, en fait, s'y trouve. C'est celui, par hasard, du successeur de Super Mario, c'est-à-dire de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Il faut aussi le remplacer, ça tombe cette année, et ça joue dans ce maquignonnage.
Ouais. Alors, Bianassi le disait à l'instant, tous les favoris ont été écartés.
Oui, alors, ils ont été écartés, et en fait, ils reviennent. Parce qu'il faut un équilibre. Il faut que les chefs d'État de gouvernement tiennent compte du résultat des élections. Donc, on a les conservateurs en premier, les socialistes en deuxième, les centristes en troisième. Voilà, c'est en gros ça l'équilibre. Il faut des équilibres nationaux, donc chaque capitale doit avoir sa représentation. Il faut des équilibres entre l'Est et l'Ouest. Et il faut de la parité homme-femme. Il faut surtout plus de femmes, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, ce débat, vous le disiez, effectivement, on disait que les Spitzenkandidaten, c'est l'expression ici, c'est-à-dire les chefs de file des élections européennes, on disait qu'ils étaient morts, qu'on n'en parlait plus. On sait que la France, par exemple, essaye de tuer la candidature de l'Allemand Manfred Weber depuis, même avant le résultat des élections européennes, disant qu'il n'a pas assez d'envergure politique, parce qu'en plus, il n'y avait pas de liste vraiment transnationale. Mais le Parlement n'en démord pas, et l'Allemagne n'en démord pas non plus, ce qui fait que Franz Timmermans, le socialiste, Margrethe Vestager, la centriste, et Manfred Weber ne sont finalement peut-être pas morts, même s'il y a de nouveaux noms.
Ouais. Un conseil européen est prévu dimanche.
Dimanche soir.
Dimanche soir, c'est bien ça. Et visiblement, il va falloir que les 28 s'entendent d'ici à dimanche.
C'est ce qu'ils espèrent. Alors, il y a un G20 à Osaka en ce moment où les Européens, en marge du sommet, ne parlent que de ça. Pas beaucoup de fumée blanche. Hein. Donald Tusk, le président du Conseil, dit son sentiment, c'est qu'on n'en est pas très loin, mais une solution est encore trop loin pour qu'on puisse dire quoi que ce soit de concret. Alors, évidemment, il y a plein de scénarios qui se font jour. On parle de d'un échange qui serait que les conservateurs laisseraient à Frans Timmermans, le socialiste, la présidence du Parlement, mais en échange, il réclamerait le Conseil européen et la Commission européenne, ce qui plairait à l'Allemagne parce que ce serait un conservateur, ce qui donnerait aussi ses chances à Margrethe Vestager, la Danoise centriste, dont le gouvernement vient de confirmer la présence à Bruxelles pour 5 ans. Bref, les candidats sont pas complètement morts, on continue à parler d'eux, même s'ils sont plus les seuls.
Et tout se négocie, évidemment. Merci Pierre Benazet d'avoir été avec nous ce matin en direct de Bruxelles, bien assis, bonne journée à Abidjan où il est 8h21. Vous nous appelez, RFI vous donne la parole, 33 9 693 693 70. Il nous a envoyé un message sur Facebook avec ses coordonnées en message privé. Nous l'avons donc rappelé. Bonjour Fiston.
Bonjour Gomez, bonjour à tous les Togolais que j'appelle à sortir massivement voter intelligemment dimanche prochain en vue d'un développement de nos communautés, de nos municipalités.
Voilà qui est dit, puisque les Togolais vont voter pour la première fois depuis 32 ans, si je ne dis pas de bêtises, à des élections locales, scrutin prévu dimanche. Mais vous nous avez contacté, Fiston, non pas pour parler de ces élections historiques, mais vous aviez envie de poser des questions sur Yahya Jammeh, l'ancien président gambien.
Exactement, M. Juan Gomez. Après 18 mois d'enquête, une ONG accuse l'ex-président gambien Jammeh d'avoir mis en place un véritable système pour abuser des jeunes femmes. Comment fonctionnait ce système longtemps resté inconnu? Sachant que Yahya Jammeh vit en exil, pourrait-il être jugé pour ses viols?
Alors, l'ONG en question, c'est Human Rights Watch, qui publie un rapport accusant Yahya Jammeh de violences sexuelles. Marion Walkman, bonjour.
Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fiston.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Banjul. Vous êtes l'enquêtrice principale de ce rapport publié conjointement par l'ONG Trial International. D'abord, expliquez-nous, avant de répondre à Fiston, comment vous avez travaillé pour réaliser une telle enquête?
Bon, alors depuis 2 ans, mes collègues et moi, nous enquêtons en manière plus générale sur les crimes qui ont été commis par le régime de Yahya Jammeh. Et assez rapidement, en fait, on m'a parlé de rumeurs qui existaient faisant état des frasques sexuelles du président. Alors tout bêtement, je suis allée voir ce qui se trouvait sur Internet. Et là, on peut vraiment se perdre une journée entière puisqu'on découvre toutes sortes d'allégations variant entre son attirance pour divers actrices et chanteuses, mais allant aussi jusqu'à des accusations d'avoir utilisé des esclaves sexuels. Donc à partir de là, j'ai commencé à essayer de rencontrer des victimes, mais aussi des témoins. Et évidemment, vous pouvez vous imaginer que ça n'a pas toujours été facile. Mais au total, après 18 mois d'enquête, comme le disait Fiston, nous avons réussi à parler à 14 personnes, dont 4 femmes, et les autres étant des hommes proches collaborateurs de Jammeh, ainsi que ses gardes du corps. Et en fait, tous décrivent le même système, mais sous un angle différent. Et c'est donc ça qui nous a permis de rassembler les différentes pièces du puzzle.
Donc vous avez pu vous entretenir avec des personnalités qui étaient dans l'entourage proche de l'ancien président, mais aussi vous avez obtenu, et c'est ça qui est incroyable, le témoignage de 4 femmes qui ont eu le courage de briser la culture du silence. Comment fonctionnait ce système ?
Alors, ce système fonctionnait comme une machine bien huilée. Alors, elle impliquait les institutions de l'État, les biens mal acquis par Jammeh, et puis aussi, c'était assez une pièce assez centrale du système, une cousine du dictateur qui servait en fait de rabatteuse pour gagner la confiance des jeunes gambiennes, afin qu'ensuite le président puisse abuser d'elle. Donc, ce système appliquait différentes méthodes, un peu selon le type de victime. Alors, D'un côté, il y avait le concours de beauté nationale organisé par le ministre de l'Éducation, une sorte de Miss Gambie. Mais il y avait aussi le service du protocole du palais présidentiel. Donc, une partie de ce service a été détournée de ses fonctions habituelles et en fait servait de couvert pour recruter les jeunes femmes pour qu'elles soient à la disposition du président quand il en avait envie. Alors, on a parlé à un homme qui était en charge du service du protocole qui nous a dit clairement que ces femmes-là n'étaient pas sous sa responsabilité et que le président les choisissait. Alors en anglais on dit handpicked, donc les choisissait lui-même pour assouvir ses désirs sexuels. Et ce qu'on se rend compte en enquêtant et en parlant à tant de personnes, c'est qu'il utilise toujours un peu la même approche, donc encore une fois avec quelques variations selon les personnalités des femmes, mais il se faisait passer pour un mentor, pour une figure de père, avec des intentions nobles, et surtout en disant aux femmes d'être autonomes, de ne pas se marier trop tôt, tout en les couvrant de cadeaux, et aussi, ce qui est important dans le contexte africain, soutenait leurs parents financièrement.
Oui, il offrait l'électricité, l'eau courante aux parents des filles de leur future proie, finalement, de ses futures proies.
Voilà, des filles qui convoitaient. Donc non seulement elles, il les couvrait de cadeaux, mais il faisait aussi bénéficier, entre guillemets, hein, vraiment de ses largesses aux parents, ce qui, d'après nous, mettait une pression supplémentaire sur les filles. Et puis la troisième étape, le point final, c'est quand il leur offre, il leur promet des bourses d'études. Donc on est quand même dans un pays qu'il a lui-même appauvri, qui n'est plus du tout capable d'offrir un bon système d'éducation. Et donc là, il passe pour quelqu'un d'extrêmement généreux en leur offrant des bourses d'études à l'étranger. Et une fois que tout ça est en place, c'est là qu'il fait ses avances.
Des avances, effectivement, et on a notamment, et j'invite les auditeurs à consulter hein, ce rapport que vous publiez, on peut lire le témoignage de Toufa Diallo, ancienne Miss Gambie, qui au départ s'est liée d'amitié avec le président Yahya Jammeh, elle refuse ses avances, elle refuse de se marier avec lui, et puis là se produit l'irréparable, témoignage bouleversant. Le temps passe vite, Marion Walkman. Fiston nous demandait, Yahya Jammeh, pourra-t-il un jour être jugé pour ses viols ?
Alors, nous sommes convaincus qu'il devrait un jour être jugé pour ses viols. Alors, bien sûr, en ce moment, il est en exil en Guinée équatoriale, dont le président est lui-même accusé de nombreux crimes. Et comme on voit sur beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux, il a l'air de mener quand même la vie d'un invité VIP. Mais il y a quand même beaucoup d'options, notamment une option qui serait que le Ghana demande son extradition, puisqu'en 2005, il y a eu un massacre de 56 migrants ouest-africains, dont la majorité étaient des Ghanéens, en Gambie. Et donc, nous faisons un plaidoyer pour que le Ghana rouvre cette enquête et, au terme de cette enquête, demande l'extradition pour Yahya Jammeh. Oui. Mais il y a aussi en Gambie, et je vais faire vite, une commission vérité et réconciliation qui fait un travail remarquable.
J'allais vous en parler de cette commission. Est-ce qu'elle aborde justement ces accusations de violence sexuelle et de viol, ou est-ce que le sujet est encore tabou ?
Alors, elle ne l'a pas encore abordé, mais c'est normal. Elle vient de commencer son travail depuis janvier. Elle fonctionne chronologiquement, donc on est dans les premières années. Et puis, comme vous le saurez, ces questions-là sont difficiles. Donc, c'est clairement toujours des enquêtes qui prennent plus de temps pour être bien faites. Et donc, d'ailleurs, c'est même plutôt bien qu'ils n'aient pas encore commencé, mais nous savons qu'il y a la commission travaille déjà dessus.
Bien. Fiston, a-t-on répondu à vos questions ? Je pense qu'on a été complet, on a pris le temps.
Oui, exactement, monsieur Juan Gomez. Merci à Marion Walkman pour tous ces détails-là.
Merci à elle vraiment d'avoir pris le temps de vous répondre, Fiston, et de nous éclairer. Je sais que certains d'entre vous qui nous écoutez souhaitaient réagir à ces révélations, à ces accusations. On en parlera dans 10 minutes, juste après le journal, puisque nous allons marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et tout de suite après, évidemment, la libre antenne. Appelez-nous, exprimez-vous, 33 9 693 693 70. Vous envoyez également vos réactions sur le compte WhatsApp. Notez bien le numéro 33 6 89 28 53 64. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.